Donc, on va assister à une communication de Philippe Gonin. Alors, Philippe, justement, est maître de conférence en musicologie à l'Université de Bourgogne, Dijon précisément. Globalement, il a commis quelques articles et puis quelques bouquins remarqués sur le rock en général. Et je citerai notamment un de ses livres sur Cure et en préparation là pour l'instant. Un livre bientôt publié, enfin j'espère pour toi, dès que tu auras fini de l'écrire sur Marquis de Sade. Et sinon, Philippe a pris l'habitude aussi d'Empin, c'est pas la première fois qu'il intervient, de communiquer en général en essayant de rendre hommage à un des groupes de la scène rock locale lorsque justement Empin se délocalise.
Bien. Moi, je me mets ici parce que je ne sais pas qui disait tout à l'heure que la scène, c'est pas punk, donc je me mets toujours là pour parler aux gens, comme ça je suis plus près des gens. Et en plus, je ne suis pas punk, donc tout va bien. Ouais. Alors, ceux qui viennent régulièrement dans Pine, donc tous ceux qui ne sont pas de Bordeaux, en fait, savent que quand je fais une conférence sur un groupe, j'essaye de prendre le groupe qui était le groupe central de la ville, ou l'un des groupes. Quand il y en avait plusieurs, et de traiter de leur premier album quand c'était le cas, c'est-à-dire quand ils ont enregistré, quand ils ont fait un premier album. Donc à Rennes, j'ai fait Marquis de Sade, à Rouen, j'ai fait Dogs, à Lyon, j'ai fait Starshooter, au Val d'Ajol, en Lorraine, j'ai fait Casse Product, et ici, quand Luc m'a dit tu veux pas faire sur un groupe, j'ai dit bah, il y a Strychnine. Strychnine, parce que je connaissais le premier album en fait, Jeu Cruel, et que je ne connaissais que ça, parce que quand il est sorti, j'avais 15 ans, donc je venais pas trop à Bordeaux, j'ai jamais vu Strychnine en concert, ni à l'époque, ni maintenant. Donc, tout ce que je connais de Strychnine, c'est ce premier album. Donc, pour une fois, je vais changer un peu mon point de vue, qui était de dire à chaque fois, alors ce groupe, est-ce que c'est punk, est-ce que c'est pas punk? La question se pose encore, Luc et Solveig en ont parlé, comment on va définir le punk, etc. C'est une chose un peu bizarre. Et j'ai employé une méthode un peu différente, puisque je suis enseignant à la fac aussi, et que donc j'ai des étudiants devant moi. Et la semaine dernière, à un cours, je leur ai dit, écoutez, voilà, vous allez prendre une feuille. Alors, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était une interro. Mais je leur dis, c'est pas une interrogation. Je vais vous passer un morceau d'un groupe que vous ne connaissez pas, j'en suis quasiment persuadé. C'était le cas, personne ne le connaissait. Ils ont 20 ans, hein, 18-20 ans. Vous allez. Oui, mais je te reconnais bien là. Vous allez simplement, en écoutant ce morceau, un seul morceau, et j'ai passé Génération Vaincue, je ne me suis pas trop cassé, hein, j'ai pris le premier morceau de l'album. Vous allez qualifier cette musique. Pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est du rock, c'est du punk, c'est quoi? C'est du rock psychédélique, c'est du rock progressif. Ils ne savaient pas du tout ce que j'allais mettre, puisqu'on avait fait déjà plein de styles en cours. Et puis vous allez expliquer simplement en trois mots pourquoi vous estimez que c'est tel style. Pourquoi vous pensez que c'est du punk? Pourquoi vous pensez que c'est du prog? Pourquoi vous pensez que c'est du rockabilly? Ou pourquoi vous pensez, parce que j'en ai eu un qui a fait ça, pourquoi vous pensez que c'est du country? Ouais. Du country. Ouais, sérieux. Et donc, ça a donné tout un tas de choses. Mais je voudrais quand même rappeler, avant tout ça, que. En 1980, le rock en France, la production en 1980, l'année où est sorti Jeu Cruel, les disques français, de rock français qui sont sortis à cette époque-là, c'est le troisième Starshooter, c'est le Dogs, c'est alors le groupe qui dominait tout, hein, Téléphone, Au cœur de la nuit, j'en reparlerai tout à l'heure. Hein, mon Dieu, il va parler de Téléphone dans un truc punk. Bah oui, on va voir pourquoi. C'est le En public de Bijoux, qui est quand même considéré, qui a été présenté comme le premier groupe punk français, hein, par la presse, etc. Et j'ai revu une interview de Vincent Palmer récemment qui disait non, nous, on n'était pas punk, on faisait du rock, on faisait du rock and roll, mais en revanche, on a adhéré. Et c'est ça qui est important, et c'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que cette musique était punk? Et qu'est-ce que c'est que la musique punk? Et qu'est-ce que c'est que derrière, que, on va dire, l'éthique punk? À quoi on adhérait et quelle musique on faisait par rapport à ça? Suicide Roméo aussi que j'ai mis ici, qui n'a pas eu un énorme succès, mais enfin dont l'album est sorti en 1980 aussi, qui représente une frange qui pouvait émerger du rock français, mais qui n'a pas perduré. Alors, la formation d'Ange Cruel, Boubou est par là, il me dira si je me trompe, mais je l'ai trouvé sur internet, c'est bien les gens qui jouent sur l'album. Hein. On est bien d'accord. Bon. 1980, je ne vais pas refaire l'histoire de Strychnine, je pense qu'il y a des gens qui sont plus capables. Bon alors, faudra le dire au mec qui a fait la page sur Internet, parce que c'est lui qui s'est planté, c'est pas moi. Moi, je l'ai chopé là-dessus. Mais en même temps, c'était sur le disque, mais j'ai pas eu le temps de vérifier. Bref, il manque un guitariste. ce qui m'a interpellé, parce que j'avais pas réécouté le disque de Strychnine depuis des années, et il se trouve qu'un de mes premiers ouvrages, c'est un bouquin sur magma. On va me dire, c'est pas très punk. Mais magma a été formé par qui ? Il a été formé par deux types au départ. Christian Vander, le batteur fou, ou en tout cas qui veut passer pour tel, et Laurent Thibault. Et lorsque je retourne la pochette de l'album, je vois derrière, produit par Laurent Thibault. Je me dis, mon Dieu, mais est-ce que c'est le même ? Donc j'écris à Laurent Thibault. Je lui dis, bon voilà, je travaille sur Strychnine, est-ce qu'on peut en parler ? Et je ne l'ai eu au téléphone qu'hier soir. Mais il m'a quand même expliqué un certain nombre de choses. Et je parle, j'ai dit à Boubou, si je dis une connerie, tu m'interromps, mais c'est ce que m'a dit Laurent Thibault hier. En fait, Jacques Higelin avait pris Strychnine en première partie. En 79-80, Jacques Higelin venait de sortir Champagne et Caviar pour les autres, enfin Champagne pour les uns, Caviar pour les autres, qu'il avait enregistré au studio d'Hérouville. Et Higelin, d'après ce que m'a dit Laurent Thibault, a dit à Laurent Thibault, il y a ce petit groupe là, c'est pas mal, il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Et donc Laurent Thibault les a invités à Hérouville, les a fait bosser beaucoup, parce qu'il me dit quand ils sont venus pour jouer, c'était un peu n'importe quoi, ils savaient pas jouer quoi en gros, enfin pas de manière professionnelle en tout cas. Et que Laurent Thibault les a fait travailler pour essayer de jouer de manière un peu plus professionnelle, donc répéter, travailler les placements. Et il a surtout beaucoup travaillé, et là j'en parlais avec Olivier juste avant, il a beaucoup travaillé avec Kik pour le placement de la voix. En m'expliquant un certain nombre de trucs, je ne vais pas rentrer dans le détail, que lorsqu'on chante, lorsque les Français chantent, ils ont l'habitude de chanter en posant l'accent sur le premier temps, et ça tombe mal parce que c'est en même temps la grosse caisse, et donc on n'entend que dalle. Et donc pour que la voix émerge sans qu'on ait besoin de forcer au mixage ou des choses comme ça, il faut qu'on chante avec un peu de décalage, et surtout qu'on ne chante pas sur le premier temps. Et il a beaucoup travaillé avec Kik, je résume, hein, pour que Kik modifie sensiblement sa manière de chanter, pour que les accentuations ne soient plus des accentuations purement binaires, comme on le fait en français la plupart du temps, mais plutôt basé sur le chant que font les anglo-saxons, les anglais en particulier, c'est-à-dire d'avoir un chant qui a plus de ressorts, qui fonctionne plus de manière ternaire. Et de cette manière-là, la voix et le chant, les paroles, c'est encore un autre problème, hein. Moi, j'ai vu pas mal d'anglais qui me disaient que les paroles, ils n'en avaient rien à foutre finalement. C'était pas trop leur problème, ils écoutaient la mélodie du chant. Mais pour que cette mélodie du chant ressorte, il fallait qu'on chante comme ça. Et il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors quand on écoute le disque, je lui ai posé la question aussi, en général, c'était enregistré plutôt ensemble, puis après, il y avait des retouches qui étaient faites. Ça n'a pas été enregistré au clic, ça s'entend sur certaines chansons où le tempo augmente de manière sensible, voire assez importante sur certains morceaux. Je crois dans Lâche-moi, ça augmente beaucoup. Hein, mais il y a d'autres morceaux. Dans les morceaux rapides, ça a tendance à augmenter. C'est-à-dire que ça démarre rapide et ça finit encore plus vite, parce qu'il y a toute cette énergie-là qui vient. Mais en dehors de ça, le son tel qu'on va l'entendre ici ne peut pas forcément être qualifié de punk, si tant est qu'on puisse dire qu'est-ce que c'est qu'un son punk. Alors on peut peut-être trouver dans la prosodie, Olivier en parlera juste après moi, on peut le trouver dans un certain nombre de choses. Et donc moi j'ai mené ma petite enquête auprès de ces étudiants, mais d'abord on va regarder un peu.
Je n'ai besoin.
Voilà. Alors, accélération du tempo. Je ne sais pas où ça a été tourné, on en parlera peut-être. Les caves du Grand Théâtre. Donc c'est bien France 3. Hein. C'est bien France 3. Ça se trouve sur YouTube, hein, pour ceux qui voudraient le revoir. Je ne l'ai pas, etc. Donc on est là avec le strychnine. C'est du playback. Hein, donc c'est le disque qui passe derrière. Ce que je disais tout à l'heure, on se rend bien compte qu'il ne chante pas sur les premiers temps. Il y a toujours une sorte de décalage. On a bien vu que le tempo, ça accélérait, surtout après le solo de guitare. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils ne savaient pas jouer, évidemment, ils savent pas jouer au sens où on peut l'entendre avec les virtuoses de la guitare, etc. Mais enfin, ça joue quand même. Ça joue quand même. Le solo de guitare, faut quand même le faire, même si c'est des plans relativement simples. Mais peu importe, je trouve que cette chanson et la plupart des chansons du disque, quand je les réécoutais, j'ai redécouvert ça, elles sont d'une redoutable efficacité du point de vue des refrains. Et dans une chanson, ce qu'on retient, ce truc « Lâche-moi », etc., ou « Génération vaincue », quand je l'ai fait écouter aux étudiants, ils sont tous sortis en chantant « Génération vaincue enfin, ». Parce que, voilà, en une fois, ils avaient ça dans la tête. Donc ça, c'est redoutablement efficace. Et c'est étonnant de voir que l'album, mais peut-être, c'est pour ça que j'ai mis tous les autres avant, avec le « Répression de Trust », avec le « Au cœur de la nuit de téléphone », etc., sur le marché du disque français, il y avait beaucoup de choses. Et pour vraiment sortir, il fallait que la maison de disque pousse derrière, et AZ, manifestement, n'a pas suffisamment poussé. L'histoire de AZ et de la signature, je ne sais pas si tu le sais, mais ce que m'a raconté Laurent Thibault hier, c'est qu'une anecdote tout à fait amusante, donc allons-y pour les anecdotes. Ils étaient dans le bureau de AZ, c'est Alain Manval qui avait déjà beaucoup fait de choses pour Marquis de Sade, qui a plus ou moins introduit Laurent Thibault auprès des disques AZ. Et puis les disques AZ n'en voulaient pas. Higelin les avait proposés à Pathé d'abord, mais Pathé n'avait pas voulu non plus de strychnine, ça n'avait pas intéressé Pathé. Et AZ était moyennement intéressé. Et à cause d'un projet qu'il avait, je ne sais plus trop quoi, à un moment donné, on appelle Laurent Thibault et c'est Nathalie Delon qui l'appelle. Donc Nathalie Delon qui l'appelle, etc. Donc il est là, il répond à Nathalie Delon. 10 minutes après, un autre coup de téléphone pour Laurent Thibault, on lui dit « Monsieur, il y a Alain Delon qui vous appelle ». Et en fait, ce n'est pas Alain Delon du tout, c'était un autre type dont j'ai oublié le nom, qui voulait absolument que Thibault lui réponde et qui a dit « Dites-lui que c'est Alain Delon ». Et il dit « Je ne sais pas si ça a joué ou quoi, mais le mec de AZ, après Nathalie Delon, Alain Delon, il a dit « Ok, on les signe », parce qu'il s'est dit « Ce mec, il a de l'entregent », etc. » Voilà une anecdote un peu drôle, je ne sais pas si tu la connaissais. Voilà, donc il y avait Nathalie Delon et Alain Delon qui appellent Laurent Thibault, et donc vous avez signé chez AZ grâce à Alain Delon, quelque part. Voilà. Ouais. En tout cas, ça m'était raconté hier soir et il n'a pas l'air d'avoir bu. Alors, est-ce que c'est un groupe punk, Strychnine? Tout le monde ici va me répondre, mais oui, bien évidemment, c'est un groupe punk. Sauf quelques réfractaires qu'on connaît, irréductibles. Qu'est-ce qui fait punk? L'image que je sors là, je la sors de Rock et Folk 1977. Où, voilà, c'était la panoplie punk. Alors, je ne sais pas si on ne voit pas bien sur les trucs, mais en même temps, il y a... blouson qu'on peut acheter 30 balles à tel endroit, badge qu'on peut acheter 2 francs à tel endroit, etc. etc. C'était assez amusant. Mais voilà la représentation en 77 du punk, dans le dossier punk de Rock et Folk. En couverture, il y avait Pink Floyd. Hein. C'était assez amusant. Oui, bah oui. Bien sûr, oui. Mais le fameux I Hate Pink Floyd, les Beatles sont pas mal ramassés aussi, hein, avec Star Shooter. Ils ramassaient dans les morceaux des Clash aussi, même dans London Calling. Ils disent que la Beatlemania a enfin mordu la poussière. Enfin, les Beatles se ramassaient tout autant. C'est eux qui représentaient quelque part la chute de tout ça, avec des disques comme Sgt. Pepper's pour les punks aussi, où le rock était devenu trop sophistiqué. On était loin des trucs. Alors voilà, on voit pas bien le gris. La perception du style. Avec Génération Perdue. En bleu, c'est le rock. En orange, c'est ceux qui ont trouvé que c'était punk. Et autres, gris. Donc, il n'y en a que 3 qui ont trouvé autre chose. Et on voit bien que pour des gens qui écoutent ce disque, qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas d'où ça vient, qui ne savent pas qui c'est, qui ne connaissent pas l'histoire du punk local, bordelais, etc., mais qui écoutent ça avec le son, c'est-à-dire la perception qu'on a à partir d'un disque et de la manière dont il a été enregistré, fait et produit, bah pour eux, pour 14 sur 26, c'est du rock. Pour 9 sur 26, c'est du punk, et pour les 3 autres, c'est autre. Alors j'ai eu les 3 autres. Glam rock, ce qui n'est pas complètement idiot. Rockabilly, ce qui n'est pas forcément complètement idiot non plus. Et country, ce qui est un peu plus... un peu plus particulier. Hein. Les raisons, parce que je leur ai posé les questions, des raisons qui leur ont fait dire qu'il s'agit de ça ou ça. La formation, ils ont entendu 2 guitares, une basse, une batterie, un mec qui chante, donc c'est du rock. Et certains ont trouvé qu'avec un peu d'énergie, c'était quand même plus punk rock. Alors bon, pour ceux qui ont trouvé que c'est du country, c'est parce qu'il y avait des passages à la guitare entre les moments où le chanteur chantait qui étaient country. Bon, je ne sais pas, il faudra dire aux deux guitaristes de l'époque qui jouaient country, ça va les amuser, je pense. Certains me disaient que c'est la structure couplet-refrain pont avec un solo de guitare et la virtuosité relative, mais virtuosité quand même du solo de guitare, pour eux, bah, c'est ce qui faisait que c'était du rock. Et quelques-uns, mais pas beaucoup, c'était ce qui faisait que c'était du punk. Mais d'abord, la structure, c'est une chanson de rock. Ensuite, les paroles. Alors là, les paroles, c'est à égalité. C'est-à-dire que la violence des paroles, je mettrai quelques-uns des arguments, la brutalité des paroles, vous allez voir des arguments qui sont un peu rigolos aussi, bah, c'est 50-50 entre le rock et le punk. C'est-à-dire que ça pouvait être aussi bien du punk que du rock. Certains ont trouvé que le texte de Génération Vaincue, hein, pas de la chanson qu'on vient d'entendre, faisait penser à du punk. Et en ce qui concerne le mode de jeu, c'est-à-dire les virtuosités, ou c'est carré, ou etc., c'est Pumchak, moi j'ai eu c'est Pumchak-chak à la batterie, donc c'est du rock, etc., pour la grande majorité, ça symbolisait du rock et pas du punk. Donc ça pose vraiment la question qu'on se pose ici dans Pind, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le punk en réalité, et comment on peut le définir. Et moi qui suis musicologue, ma question est de savoir qu'est-ce qui musicalement définit le punk. Et là, sur cette chanson, avec ce type de son, cette production, eh bien, on est plutôt dans du rock pour la perception qu'ont des jeunes d'aujourd'hui, 18-20 ans, de cette musique-là, sans en connaître l'histoire, etc. Mais, parce que quand je fais des cours sur le punk, je fais pas le punk à Bordeaux, le punk à Rouen, le punk à machin, je fais le punk. Hein, j'ai eu 2 heures pour faire l'histoire du punk. Là, ça fait 3 ans que l'équipe PIN travaille. Donc, les arguments pour le rock. J'ai trouvé 2 fois, c'est du style téléphone. No comment, hein, je reprends, je fais une enquête, il y en a 2 qui me disent c'est du téléphone. Gros solo de guitare de type blues rock. Donc le jeu du guitariste, pour eux, c'est du blues rock et ça fait partie du rock. J'aurais pu passer Little Bob Story, il m'aurait peut-être dit la même chose avec les mêmes arguments. Des harmonies simples, la puissance de la musique, la manière d'utiliser la voix, pour eux, est un... ou pour celui, hein, j'ai tous les papiers donc on pourrait revérifier, est le critère... Non, j'ai demandé que ce soit anonyme, comme ça, ça les laissait libres. Des thèmes simples, des très proches de Chuck Berry. C'est-à-dire que le jeu de guitare, c'était très rock'n'roll et donc proche de Chuck Berry. Le style rock tout public, alors là, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Genre, c'est du rock à la radio, à la bijou, je ne sais pas. Les paroles qui font penser à une époque révolue. À une époque révolue. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire, mais sans issue, c'est une génération vaincue. Je pense qu'il... s'imagine dans une génération qui ne l'est pas. Alors tant mieux, peut-être. Oui, voilà. La diction du chanteur. La diction du chanteur a fait, pour au moins des intervenants, penser à du rock. Et les thèmes abordés, génération vaincue, c'était entre parenthèses, lui fait penser à du rock. Pour le punk, on revient encore une fois sur le chant. C'est-à-dire que le chant de Kick apparaissait pour certains comme énervé, agressif. Et donc, typique du punk, avec des paroles motivantes. Alors, sans issue, c'est une génération vaincue. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par motivant. Mais en tout cas, sans doute la violence des paroles. La rythmique de la batterie. Boubou, tu joues punk. Le chant sur une même note. Le chant sur une même note. C'est-à-dire pas de lyrisme dans le chant, c'est pas Freddie Mercury, quoi. Et on est dans cette énergie, dans l'agressivité qui peut répondre à l'énergie. Des paroles revendicatives. Le style d'écriture du texte, sans phrase. Un peu slogan. Donc il y a une pertinence quand même dans cette perception-là. J'ai, dans ce groupe de 26 étudiants, j'ai des musiciens qui font du rock. Mais comme c'est anonyme, je ne sais pas lesquels ont répondu à quoi. Et j'en ai qui ne sont absolument pas du tout dans le monde des musiques actuelles, qui sont des musiciens de type classique, qui pourraient vous parler pendant des heures, et c'est très bien, de Beethoven ou de Debussy, mais qui n'y connaissent rien au rock. Donc leur perception, elle est liée aussi à cette méconnaissance. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'a aucune valeur, qu'on soit bien d'accord. Hein. Le bourrinage à la basse. Le bourrinage à la basse et la batterie minimaliste. Là, c'est vrai que quand on écoute ici sur la vidéo, la basse est très en avant dans le mix aussi, ce qui est quelque chose qui peut faire rapprocher des Stooges ou de choses comme ça. Alors bon, pour les autres, on imagine une mise en scène théâtrale glam. J'ai pas passé de vidéo, hein, j'ai passé le disque. Hein. Alors ils imaginaient, bon, ils s'imaginent des choses. L'air mélodique de la guitare faisait penser à des airs de country. On ne juge pas. On ne juge pas, on constate. C'est les limites de la science. enfin, limite et en même temps l'intérêt de la science. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que on peut être dans la phase, dans le process de création, en train de se dire « je suis en train de faire ça », et puis on le présente à des gens, et les gens n'entendent pas du tout ça. Ils entendent autre chose. Et il faut savoir pourquoi, donc ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, jeu cruel. Il y a eu, en 1980, un numéro de Best avec un spécial rock à Bordeaux, dedans. Donc, qui s'appelle d'ailleurs Rock Story, avec ST, je pense qu'il l'a fait exprès quand même, avec le ska qui était en pleine bourre à ce moment-là en couverture, Motorhead en BD, hein, donc Motorhead punk ou pas punk, ça dépend. Hier soir, quand on a bu des shoots dans cette espèce de petit bar absolument phénoménal, il faudrait que tu y ailles, toi, ça te plairait? Ah, bon. Et des interviews de Pete Townshend et des Cramps. Mais avec surtout Jusqu'où le ska, et puis un truc où on parle aussi des groupes rock. Alors il y a Star Shooter, l'anniversaire de Corinne, dont on se fout éperdument finalement, mais c'était l'anniversaire de Corinne, tout va bien. Téléphone était quand même le groupe dominant encore une fois. Hein. Téléphone, Bijou, Star Shooter, c'était les trois groupes dominants, les trois plus gros vendeurs en tout cas, surtout Téléphone de l'époque. Et là-dedans il y a un papier donc, qui est signé Michel Ambarek, qui est un journaliste toujours vivant, mais que j'ai pas eu le temps de contacter, où il dit ceci sur le disque de Strychnine. C'est assez intéressant aussi par rapport à la perception qu'on a pu avoir à l'époque de tout ça. Le disque, trois ou quatre écoutes du master, faisait songer à un compromis téléphono-bijoutesque pas spécialement excitant. Il avait vu Strychnine en concert, il avait vu Mont-de-Marsan, etc. etc. Donc voilà sa perception du disque. Pour définir Strychnine, ça tient des Dolls pour la vitesse, du MC5 pour la lourde précision de tir, des Stooges pour la folie destructrice, monstrueux son de basse, riff de hachoir électrique. Ensuite, il revient sur le disque. Personnellement, ce sont surtout ceux d'Hérouville qui me désespèrent. Comment Strychnine, groupe bourré de haute tension, a-t-il pu offrir un album aussi vide? Je le laisse libre, encore une fois, Michel Ambarek, de ses propos par rapport à l'album. Il est en train de comparer ce que Strychnine a pu produire sur disque par rapport à ce qu'il produisait sur scène. Conciliant, Kick essaya bien de m'expliquer qu'ils avaient voulu prouver autre chose en studio. Je veux bien, mais pourquoi Laurent Thibault n'est-il jamais venu les voir en scène avant de faire ce disque? Voilà. Donc, la perception qu'a Michel Ambarek du groupe sur disque par rapport au groupe qu'il connaît sur scène, elle est assez négative. Or, si on écoute le disque de manière complètement détachée, c'est-à-dire sans connaître Strychnine sur scène, comme je l'ai fait avec les étudiants, ou comme moi je l'ai fait, puisque je ne les ai jamais vus encore une fois, c'est un disque qui méritait beaucoup plus de succès qu'il n'en a eu, s'il avait été un peu soutenu parce qu'il était aussi dans un son qui, aujourd'hui, je trouve, peut encore passer pour un groupe de rock et que des groupes de rock refont encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette distance qui va se créer entre ce qu'un groupe, une fois qu'il est produit, et Laurent Thibault et Hérouville ont produit le disque sans avoir de maison de disque, hein, c'est-à-dire que leur volonté c'était de faire le disque, et ensuite ils sont allés chercher une maison de disque. Mais il a voulu travailler ça de manière à ce que ce soit un disque qui puisse rencontrer quelque part un écho beaucoup plus large que le public punk, qui peut-être, dans son esprit, était beaucoup plus réduit, et donc, en termes de vente, n'allait pas répondre aux attentes. Donc on peut se poser encore tout un tas de questions là-dessus. Donc voilà la fameuse couverture, voilà le Gironde Story, c'était ouais, Gironde Story avec ST, etc. Donc il parle de tous les autres groupes. Si la photo était plus grande, je pense que vous reconnaîtriez l'ensemble des gens qui sont là et peut-être même des gens qui sont d'ailleurs dans la salle. Mais je pourrais faire circuler ce précieux numéro de Best à ceux qui le veulent, voire faire des PDF en couleur pour ceux qui ne l'auraient pas et qui voudraient l'avoir. Vous me le demandez à la sortie. Donc voilà l'article dont je viens de vous parler. Et alors voilà, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le punk. Si dans l'enquête que j'ai eue, on a la vitesse, donc rapidité du tempo, le bourrinage à la basse, des riffs simples et des paroles qui sont engagées et qui font un petit peu lutte politique, etc. Alors à ce moment-là, et je me suis dit, on a beau être chez des punks, écoutons du téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va vite, ça bourrine, les rives sont simples, et ils parlent de politique. Boum, boum, tu es président de la République. Boum, boum, et toi le chef d'un grand parti politique. Amsterdam, pique et pique et que rame.
contre les foncés et tu cours après ta cam. T'es en dehors du jeu, t'as plus besoin des femmes. Mets-toi sur le côté, regarde les jouer. Boum boum.
Alors, je vais m'arrêter là, je vais pas mettre ploum ploum en entier. Simplement, cette petite provocation à deux balles, hein, mettre du téléphone dans un truc punk, c'est vraiment à 3 francs 6 sous. C'est vraiment se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut percevoir un disque punk, comment on peut percevoir un groupe punk et comment est-ce qu'on peut qualifier la musique punk. Et que, à mon avis, ça va au-delà de la production musicale de ces groupes-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un environnement autour qui fait que on a aussi une qualification punk qui peut se mettre en place. Parce qu'il n'y a aucune raison, ni musicale, ni du texte, ni dans le tempo, ni dans tous les éléments musicaux qu'on peut donner comme étant du punk, de dire que ça n'en est pas. Ploum ploum de téléphone. Et pourtant, ça n'en est pas. Ça n'est jamais venu à l'esprit de personne de dire que téléphone un jour a été punk. Voilà. C'est là-dessus que je vais terminer, en espérant engager des conversations. Et donc, voilà un strychnine peut-être un peu plus actuel, je ne sais pas, mais en tout cas avec un guitariste qu'on va reconnaître, il suffit de regarder derrière, il est là-bas, c'est notre ami Luc.
Merci voilà. Philippe. Bravo. Alors, contrairement à ce que j'ai dit, parce que Olivier va pouvoir s'installer pendant ce temps-là, on peut donner la parole.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, suite à ça. Moi, je suis assez d'accord avec Ambarek. Mais c'est assez compliqué à expliquer parce qu'il faut se resituer dans l'époque. À l'époque, téléphone avait tellement trusté le marché, et, si je veux faire un jeu de mots avec trust, que tous les groupes qui ne ressemblaient pas à ça n'avaient aucune chance d'être signés en France. Et nous, on avait fait le tour de toutes les maisons de disques avec notre disque punk, et même chez Skydog, chez Marc Zermati, et on a été retoqués. Et en fait, dans les maisons de disques, ils disaient, nous, on veut du téléphone parce que c'est ça qui fait du pognon. Grosse différence avec Londres, où tous les labels signaient n'importe quoi, les Damned, les Clash, etc., les Pistols, en disant, peut-être qu'on va faire du pognon avec un de ces groupes. Donc c'était vraiment une façon de voir le business complètement différente. Parce qu'il s'était fait gauler sur les mecs, le mec qui avait refusé les Beatles, le mec qui avait refusé les Stones. Après, ça a fait des millions derrière et ils se sont dit, bon, on va pas encore se faire avoir. Cette fois-ci, on signe tout le monde. Et puis, bon, il y avait un peu de tout. Et nous, on était hallucinés en France de voir que des groupes qui ne savaient pas jouer faisaient des 33 tours, voilà, comme les One-Oneers, X-Ray Spake ou des trucs comme ça. Et puis nous, voilà. Donc je pense qu'il y a eu une volonté de mettre en boîte Strychnine, mais c'était déjà beaucoup plus tard, hein, c'était 80. Strychnine, ça a commencé bien avant. Et en fait, effectivement, je pense que le groupe, le disque, il a complètement... Strychnine, c'était des tigres sur scène, il a mis un tigre empaillé, quoi, à la fin. Et peut-être de vouloir trop les mettre dans un truc commercial, ça a un peu cassé la haine, justement, dont je parlais tout à l'heure, l'énergie, etc. Et ça, nous, on n'en voulait pas. Mais si on reprend l'historique, il y a eu des couches et des couches. Et en fait, on finit par tout mélanger. Parce qu'en 76, par là, c'était surtout le pub rock. Il y avait Eddie and the Hot Rods, Little Bob Story, Feel Good. Voilà, c'était ça qui un peu nous structurait, ça nous changeait des babacools, des groupes comme Yes, etc., qu'on écoutait, enfin que les gens de notre génération écoutaient. Et nous, on avait écouté Iggy Pop et on voulait faire autre chose. Et quand on a trouvé dans le pub rock une énergie, et c'était pas du punk, on appelait ça du pub rock. Moi, j'allais voir Bijou, j'avais fait tourner à Bergerac Eddie and the Hot Rods, etc. On aimait bien, quoi. Et on avait quand même beaucoup de racines rock'n'roll. Et chez Strychnine, ça se sent.
Oui, bon, oui.
C'est une influence très stonienne, très
tout à fait,
etc. Moi, j'ai connu Claude Guigui et Jean-Pierre Cyr, donc JPJP, à la fac de Bordeaux. Et ils n'étaient pas encore... Enfin, Strychnine était en train de se faire. Je suis ému, là. et en fait, ils étaient à la fac d'anglais. Il y avait une cafette de la fac d'anglais. Et il jouait sur des guitares sèches tout l'album Tommy des Who. Et moi, j'étais là.
C'est pas le meilleur. Hein.
Non, il jouait film, etc. Et il jouait aussi du Velvet et des trucs comme ça. Ouais. Et moi, j'étais scotché. Je dis, waouh, les mecs, ils sont super et tout. Mais ce qu'il fallait retenir de Strychnine, c'est pas des punks au niveau de la musique, mais sur scène, l'attitude, l'énergie, c'est ça qui était
oui, pré-punk. C'est ce que j'ai essayé de dire.
C'est en ça qu'on
peut
les qualifier de punk. C'est vraiment ce qu'ils faisaient sur scène. Moi, je les ai vus dans leur lycée je crois que c'est, il est où Boubou ? C'était Majendi. Un des premiers concerts de Strictine à Majendi où vous faisiez, c'était top quoi. Et c'était très très rock'n'roll, mais l'attitude sur scène, elle était déjà punk. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu de Stalag, il n'y aurait peut-être même pas eu de Noir Désir s'il n'y avait pas eu Strychnine. Et ça, c'est ça qu'ils ont amené, c'est cette énergie sur scène.
Oui, mais c'était la même chose. Enfin, on peut dire la même chose des Clash, même si le premier album est très énergique. Quand ils jouaient London Calling, même à la fin, ils le jouaient avec une énergie différente de ce qui était sur les albums. Ça, c'est évident. Et le fait que Téléphone ait dominé l'ensemble et que chaque maison de disques ait voulu son propre téléphone pour concurrencer, ça aussi, c'est une évidence. C'est l'histoire de The Cure, hein, qui ont été signés par un label Hansa allemand parce qu'ils voulaient leur groupe punk alors qu'ils faisaient pas ça du tout. Et puis qu'ils les ont virés parce que ils sont partis, je sais plus trop. Mais chaque label voulait aussi son groupe punk anglais à un moment donné pour ça. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Après, sur la définition de la musique punk, on est sur du rock'n'roll, quoi qu'il en soit, de toute façon. Et ce qui est important, c'est ce retour, quelque part, au rock'n'roll. C'est se dire, bon, ça va, le rock prog, les 12 semi-remorques pour faire des concerts, nous, ce qu'on veut, c'est mettre un ampli, brancher, et puis jouer. Et puis jouer avec l'énergie que des groupes comme Yes, ou Pink Floyd, ou Genesis n'avaient plus, ou étaient entrés dans un autre système. Ce qui est important dans mon travail, et peut-être dans celui qu'on fait dans PIN, dans mon travail de musicologue, c'est d'avoir la distance aussi. C'est-à-dire qu'on travaille évidemment avec des témoignages de différentes personnes, mais on sait très bien que dans le travail de la mémoire, le témoignage reste aussi quelque chose, et une vision de l'histoire telle qu'on l'a vécue. C'est-à-dire que si je raconte, c'est ce que je disais à Lyon, si je raconte mon histoire du rock à Lyon telle que je l'ai vécue parce que j'étais dedans, elle ne sera certainement pas la même que le groupe qui a mieux marché ou le groupe qui a moins bien marché. Et que si on demande aujourd'hui à un membre de Stalag de raconter l'histoire de Stalag, il ne racontera pas la même si on les sépare les uns les autres que l'autre. Avec des rôles qui vont être d'ailleurs attribués de manière différente. Hein. Moi, je vois ça, je vais reformer le groupe que j'ai fait il y a 30 ans. J'ai appelé le gars qui jouait avec moi. On n'avait pas déposé le morceau à la SACEM. On a discuté, on a décidé de les poser aux deux noms, hein, Lennon-McCartney globalement, mais on sait très bien, enfin pour moi je sais très bien que tous les morceaux c'est moi qui les composais, mais je m'en fous, je vais pas gagner pognon avec ça, donc on va déposer aux deux noms parce que ça va lui redonner son rôle aussi que moi j'estime de type qui a donné naissance aux morceaux en travaillant, hein. Okay. Voilà, donc il faut qu'on redéfinisse tout ça, il faut qu'on retravaille là-dessus.
Je vais te couper, Philippe.
Mais coupe-moi, Laurent.
Mais
je ne parlerai plus de bijoux si tu continues à couper.
Bon, alors, je ne te coupe pas. Alors, on a largement de quoi discuter à midi autour du repas, des canettes, etc.